le père Gouthière et le père Philippe à Rimont le 22 mai 1998, troisième conférence.
Il y a déjà pas mal de questions. Si vous en avez d'autres, hein, vous n'hésiterez pas à les poser au fur et à mesure. Alors, il y a peut-être des questions de... Peut-être déjà des questions de vocabulaire, hein, surtout... Oui, surtout une. Pouvez-vous réexpliquer ce que c'est que... l'entéléchie, dont a parlé le père Philippe dans sa première conférence. Justement, il vous a dit qu'il fallait surtout pas employer ce mot. Alors, oui, je réponds vite à la question. Bon, alors, le grec entelekeia. Je ne vais pas faire tout un cours sur la métaphysique de l'acte, parce que demain, on y est encore. On pourrait, mais bon. Entelekeia. Vous voyez, c'est un mot qui est inventé par Aristote dans sa métaphysique et qui est composé de plusieurs termes. Entelekeia, donc en... dans, tel, c'est le mot telos, qui en grec veut dire la fin, ekeia, vous voyez, on retrouve hein, ekeia, ekein, le verbe ekein, le mot exis, qu'on a vu ce matin, hein, habitus, qui veut dire avoir. Hein, donc ekeia, ce mot n'existe pas en français, c'est le substantif qui correspond au mot avoir. Alors on traduit ayance, hein, ayance, ça va très bien. État de celui qui possède sa fin. Et donc, entelekeia, c'est un état de perfection. L'état de celui qui possède sa fin. Par exemple, vous voyez, entelekeia, celui qui aime, il est dans un état de celui qui possède sa finalité. Vous voyez, le bien, la personne que j'aime, la personne, le bien, est acte. Hein. On dira, le terme grec qu'emploie Aristote, c'est energeia, acte. Fin. Et ce bien, quand je l'aime, je suis dans un état de celui qui atteint cette fin. Oui. Par exemple, la vision, oui, je vois tout de suite en acte, c'est entelekeia, c'est un état de perfection. Celui qui a les yeux fermés, qui ne voit pas en acte, il est en puissance de voir, capable de voir. Et celui qui voit en acte, c'est un certain sommet. Oui. C'est pour ça qu'Aristote dit... Hein, on voit pour voir, oui, c'est entelekeia, c'est un état de perfection. C'est quelque chose d'ultime, hein, c'est un acte. Oui, alors, on a traduit entelekeia, energeia, ce sont deux termes qu'on trouve chez Aristote. Hein. Les deux ont été traduits en latin, actus. Alors, ça devient très difficile à comprendre, parce que c'est deux termes très différents. Et en français, acte, alors on dit être en acte, vous voyez. Très bien, il faut essayer, pour ça qu'il vous disait, essayer de retrouver le terme grec. Distinguons. Ce qui me finalise est l'état dans lequel je suis quand j'atteins cette fin. Et grosso modo, hein, je ne peux pas détailler plus parce que ça nous entraînait dans tout un cours de métaphysique, ce qu'était la session de l'an dernier, hein, donc c'est pas la peine. Bon, alors. Identifiez-vous le sage et le contemplatif. Sagesse philosophique et contemplation philosophique. Alors, je les ai identifiés. Oui, justement, distinction entre... une capacité, une vertu qu'on possède et une activité. Alors oui, je n'identifie pas le sage ou la sagesse et la contemplation. Hein, je vous ai dit ce matin, on y reviendra, la sagesse, c'est un habitus. Donc c'est une qualité acquise. Elle est tout entière ordonnée, finalisée par une activité qui est la contemplation. Hein, je vous ai dit ce matin... La contemplation, c'est une activité, c'est un acte. Ce n'est pas un état. Tandis que la qualité, je peux la posséder. Mais autre chose est, par exemple, être courageux. Autre chose, faire un acte de courage. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'acquiers une vertu, j'acquiers un habitus par une activité. Mais en posant des actes courageux, je deviens courageux. Ça s'acquiert. Et quand je possède le courage, je deviens plus capable de poser des actes de courage. Et pour ça, je vous ai dit, c'est de l'intérieur une capacité que j'ai qui se fortifie et qui devient ainsi plus capable d'atteindre sa fin, ce pourquoi elle est faite. Et c'est pour ça qu'il n'y a d'habitus qu'au niveau spirituel. Il n'y a pas d'habitus des sensations au sens strict. Je ne peux pas améliorer à force d'exercice mon œil, non. Au contraire, il va peut-être plutôt se détériorer avec l'âge, parce que l'organe vieillit. Mais mon âme spirituelle ne vieillit pas, hein. Il n'y a pas d'âge pour mon âme. Par contre, mon corps implique un âge, oui. Il y a les yeux de quelqu'un de 80 ans, il y a les yeux de quelqu'un de 20 ans, ce n'est pas la même chose. Mais c'est très intéressant. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'habitus au niveau d'un organe. Je vais essayer de corriger par l'art. Et les lunettes, c'est corrigé par un certain aspect artistique. Il y a peut-être d'autres aspects, oui. Il y a un art médical. Et le souci de l'art, c'est de corriger ce que la nature n'est pas capable de faire par elle-même, quand on peut le faire, dans certains cas. Donc, c'est bien ce que dit Aristote. L'art imite la nature et l'accomplit dans ce qu'elle est impuissante à effectuer par elle-même. On fait ça tout le temps. Et ars, alors c'est ce que le Moyen-Âge appellera, hein, ars coadjuvans naturam. L'art qui aide la nature en l'accompagnant, en étant avec elle. L'art ne peut pas être contraire à la nature, au niveau d'un art artisanal ou d'un art qui est au service d'une finalité naturelle. Alors, quand il s'agit de contemplation et de sagesse, distinguez bien. La sagesse, c'est la qualité possédée. La contemplation, c'est ce en vue de quoi je possède cette qualité. Aristote dit avec beaucoup de force, on possède la capacité de contempler pour contempler. On ne contemple pas pour posséder la capacité. C'est très juste. Sinon, vous voyez, à quoi ça sert d'acquérir les vertus? C'est bien pour les pratiquer, vous comprenez. Si je dis, oui, moi je possède toutes les vertus puis je dors dessus, ben dormez sur votre trésor, c'est oncle Picsou. Oui, parce qu'il faut vous renvoyer à des littératures que... Lorsque Platon affirme que pour contempler, le sage doit quitter le monde sensible, n'y a-t-il pas une intuition juste? Oui, en quelque manière, pas complètement. Et pour ça, je vous ai dit ce matin, hein, le quitter sans le quitter, hein, parce que quand il s'agit du mystère de Dieu, comme philosophe, n'ayant pas l'expérience de Dieu, je ne peux le connaître qu'à partir des réalités dont j'ai l'expérience. Pour Aristote, l'univers physique... La personne humaine, le père Philippe vous précisera que pour lui, c'est avant tout l'expérience de l'amitié. Et je ne quitte pas l'ami pour contempler Dieu, puisque je le contemple à partir de l'ami. Mais je n'ai pas d'expérience directe de Dieu. C'est en ce sens que la contemplation philosophique ne supprime jamais l'amitié. Il n'y a pas de rivalité. Une fin plus ultime ne supprime pas une fin moins parfaite. Elle l'assume. C'est pour ça que l'amitié est beaucoup plus profonde dans une éthique religieuse que dans une éthique simplement humaine. Il n'y a jamais d'opposition entre Dieu et l'amitié. Jamais. Celui qui l'oppose, ça prouve qu'il reste facilement au niveau passionnel. Ah oui, que la contemplation exige de dépasser un aspect passionnel, ça certes. Mais une vraie amitié spirituelle n'est jamais contrariée par la contemplation de la recherche de Dieu. Au contraire. Aristote va jusqu'à dire que les plus grandes amitiés sont celles de ceux qui cherchent Dieu ensemble. Et c'est très beau qu'un païen ait dit ça. Parce que l'amitié implique une mise en commun, une koinonia. Vous voyez, ce qu'on a traduit par communion. Hein, une koinonia, une mise en commun. Eh bien, mettre en commun ce qu'il y a de plus grand dans notre vie, c'est source de la plus grande des amitiés. Vous comprenez? C'est une amitié plus profonde que de mettre en commun et de vivre ensemble la recherche de la vérité, la recherche de la sagesse, que de mettre en commun uniquement, je ne sais pas moi, la recherche des bons vins. C'est très bien, c'est déjà pas mal. Mais il y a des amitiés de voyage, vous savez bien. On a voyagé avec quelqu'un dans un train pendant quelques heures, alors c'est créer une certaine amitié. Oui, on ne peut pas dire que ce soit d'une amitié d'une profondeur très grande, parce qu'il faut d'autres vies communes pour qu'on voit si vraiment il y a une véritable amitié. Aristote dit que pour qu'il y ait une véritable amitié, il faut avoir consommé ensemble une mesure de sel. Et une mesure de sel, c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut avoir pris beaucoup de repas ensemble, parce que avant que j'ai usé une mesure de sel comme ça en mangeant avec l'autre, il faut qu'il y ait passé du temps. Oui. C'est pour ça qu'il dit, hein, il faut beaucoup de temps pour voir si l'autre est vraiment, s'il y a vraiment une unité et une confiance mutuelle. Et il ajoute, si le désir de l'amitié est prompt, L'amitié réelle est longue à tisser. Et c'est là qu'on voit qu'une véritable amitié résiste à l'épreuve du temps. Une amitié passionnelle est changeante. La passion change. C'est pas la même chose à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans. L'amitié spirituelle peut être la même, elle s'approfondit toujours. C'est pour ça qu'il y a une fidélité dans l'amitié, la véritable amitié, la passion n'est pas fidèle. Aristote, qui a beaucoup d'humour, dit que même quand on reste au niveau de la passion, on change d'amitié plusieurs fois par jour. Ce qui n'est pas si faux dans certains cas. Vous avez des gens qui sont dans des relations passionnelles permanentes. C'est très curieux, ils perdent la tête. Peut-on mettre en parallèle les purifications dont parle Platon, les purifications que le mystique vivra dans sa foi? Non, c'est très différent. C'est pas du tout la même chose. Alors, j'y reviendrai demain à propos de ça, à propos de la foi. Pourquoi, c'est ce que nous essaiera de voir avec saint Thomas, pourquoi est-ce que nous vivons comme chrétiens dans la foi? Et qu'est-ce que ça veut dire la contemplation chrétienne? Et pourquoi saint Thomas montre cela en lien avec la vision de Dieu? Donc j'y reviendrai, c'est quand même très différent. Alors, je regarde, j'essaye de voir les questions les plus rapides à traiter avant d'en prendre d'autres qui sont plus fondamentales. Alors, là, il y a des questions un peu rapides sur les choses que j'ai dites, je les prends maintenant. J'ai entendu, alors c'est des questions qui sont par mode d'aphorisme, donc il faut que j'interprète moi-même. J'ai entendu trois choses. Ah bon? Alors. Premièrement, pas de fondement à la métaphysique, point d'interrogation. Deuxièmement, primat de la critique égale scepticisme, point d'interrogation. Troisièmement, contemplation artistique, point d'interrogation. Donc je présume que ça demande des explications. Ça doit être ça. Parce que je ne sais pas si c'est une contestation, si c'est un commentaire, si c'est... Si vous vous contentez de prendre un air dubitatif, je ne sais pas. Oui, vous êtes dans le scepticisme, mon avis. Bon, alors, pas de fondement à la métaphysique. J'ai pas dit ça. J'ai dit, on ne peut pas dire que la critique fonde la métaphysique. Vous voyez, faites attention. Bien sûr qu'il y a un fondement à la métaphysique, sinon, elle repose sur quoi, alors? Mais elle repose sur le jugement d'existence. Le jugement d'existence, ceci est, qui est présent dans toute expérience humaine. Toute expérience humaine implique un jugement d'existence, ceci que je vois est. Et c'est l'intelligence qui pose ce jugement. C'est cela qui fonde la philosophie première qu'on a appelée la métaphysique. Elle se fonde sur le jugement d'existence. Mais je vous ai dit, si vous vous rappelez, ce jugement d'existence, je l'accepte ou je le refuse. Au sens strict, il n'est pas soumis à la critique. Je ne critique pas ce qui est. Je pourrais réfléchir en critique sur le rôle du jugement d'existence, d'accord, mais je ne critique pas ce qui est, je l'affirme, j'y adhère. Pourquoi? Je dis ça parce que la philosophie première, c'est la connaissance de ce qui est en tant qu'il est. Alors vous voyez, là, je suis obligé de préciser un petit peu cette analyse que fait qu'Aristote est le premier à avoir faite. Ce qu'il appelle le to-on, e-on. To-on, ce qui est, est on en tant qu'il est. Oui, pourquoi dit-il cela? Parce que pour lui, il y a plusieurs parties de la philosophie. En philosophie, je regarde toujours ce qui est. Et dans ce qui est, l'homme existant. Mais je peux regarder l'homme en tant qu'il travaille, philosophie de l'art. L'homme en tant que c'est une personne responsable, capable de poser des actes volontaires, philosophie morale. L'homme en tant qu'il vit dans une communauté, philosophie politique. L'homme en tant qu'il a un corps, philosophie de la nature. L'homme en tant qu'il a une âme et qu'il est un vivant, philosophie du vivant. L'homme en tant qu'il est et qu'il est une personne, philosophie première. L'homme en tant qu'il me conduit jusqu'à la découverte de l'être premier, qu'on appelle Dieu, et qu'il est une créature, théologie naturelle, sagesse. Vous voyez, il y a diverses parties de la philosophie. Donc quand on parle de la philosophie première ou de la métaphysique, c'est une des parties de la philosophie. On l'appelle première parce qu'elle est ce qui est le plus radical dans la connaissance du réel. Et c'est plus radical de vous connaître en tant que vous êtes que de vous connaître uniquement en tant que vous êtes artiste. Parce que l'être est plus radical que l'art. Parce que en tant que vous aimez, en tant que vous êtes dans une communauté, en tant que vous avez un corps, en tant que vous vivez, tout cela, ça existe. L'être est dit de multiples manières. Donc on dit de philosophie première parce que c'est ce que l'intelligence atteint de plus radical dans la réalité, l'exister, l'être. Ah oui, je précise bien, hein, quand je dis le jugement d'existence est présent dans toute expérience humaine, l'expérience est proprement humaine. Elle implique l'alliance entre les sensations et l'intelligence qui, dans un jugement, adhère à ce qui est. Et l'expérience est proprement humaine. Chez l'animal, il n'y a pas d'expérience. Il y a une sensation. Il y a quelquefois l'imagination, pas chez tous les animaux. Et la vie sensible chez l'animal, elle est ordonnée à son appétit naturel. Vous savez cette remarque d'Aristote tellement drôle hein, quand il dit « Le lion ne prend pas plaisir à l'odeur du bœuf ». Il n'y a pas de connaissance sensible gratuite chez l'animal. L'animal ne contemple pas. Quand on parle du regard du lion qui fixe l'horizon, oui. Non. Alors il dit, il cherche simplement, hein, il a simplement connaissance grâce à son odorat que le bœuf est à sa portée, et ce qu'il veut, c'est le dévorer. L'animal, la vie sensible est ordonnée à sa vie instinctive, à l'appétit naturel de nutrition ou de reproduction. Chez l'homme, la vie sensible est au service de l'intelligence. Et c'est l'intelligence qui pose le jugement « ceci que je vois est ». Mais c'est pour ça, pour l'homme, il n'y a pas de sensation à l'état brut. Mon intelligence est présente à toutes mes sensations. Si du moins je vis un temps soit peu avec un peu de lucidité. Mais dès que je touche cette table, ça implique l'intelligence en acte. L'expérience, c'est l'alliance entre les sensations qui sont spécifiées par les qualités sensibles de la réalité. Je vois les couleurs, j'entends le son, je sens une odeur. C'est mon odorat, vous voyez. Je ne vois pas l'odeur qui est dans la cour, là. C'est quand je passe à côté, je la sens. Il y a un peu de vent, alors ça remue. Mais vous voyez, si celle des fleurs ou c'est une autre. Mais j'ai pas vu cette odeur, oui, j'ai pas vu, tiens, tout d'un coup, il y a une odeur que je vois dans la cour. Non, je vois pas l'odeur. Je n'entends pas les couleurs. Oui, je ne vois pas le son. Mais quand je parle, vous voyez pas du son qui sort de ma bouche. Hein. Et c'est ce qu'on appelle les sensibles propres. Chaque sensation atteint quelque chose de propre de la réalité. Une qualité sensible propre à chaque sens. Et ça, ces qualités sensibles, elles sont immédiates. Elles ne sont pas mesurables. Elles viennent spécifier ma connaissance sensible. Et l'intelligence se sert de ces sensations pour adhérer à ce qui est. Mais c'est l'intelligence qui dit ce qui adhère à ce qui est. Ceci que je vois, dont je perçois telle qualité, est. Mais la vache n'a jamais posé un jugement d'existence. Et le chien non plus. Même si sa maîtresse est un très haut personnage. Très important. Donc vous voyez, quand je dis pas de fondement de la métaphysique, comprenez bien. J'ai voulu dire, la métaphysique ne repose pas sur une critique préalable. Elle repose sur le jugement d'existence qui est ce qui nourrit l'intelligence d'une manière fondamentale. Alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le primat de la critique conduit à un scepticisme. Si je commence par la critique, ça veut dire que je mets avant mon contact avec la réalité la connaissance de ma propre connaissance. Donc je veux mesurer l'instrument avant de regarder la réalité. Ça, c'est valable pour certaines connaissances scientifiques. Et un scientifique, au sens des sciences modernes, il établit un protocole d'expérimentation. Et il fait une critique et il dira « J'ai atteint ce résultat avec telle méthode et telle démarche. » Dans toute description d'une expérimentation, il y a l'établissement du protocole. J'ai obtenu cette mesure avec telle manière de procéder. Et ça fait partie de l'honnêteté du savant. Et on dit que le suaire de Turin, il est de 1294. Très bien. Si vous ne dites pas comment vous avez obtenu cette mesure, ça n'a aucune valeur scientifique. Quelle méthode, quel protocole avez-vous suivi pour arriver à ce résultat? Ensuite, je n'ai pas le droit de dire « ce suaire est de telle date ». Non, les mesures que je fais me conduisent à dire qu'il est de telle date. C'est pas pareil. Parce que les mesures que je fais me font conclure qu'il est de telle date. C'est les mesures qui vous prouvent qu'il n'y a pas eu tel événement qui modifie ce que vous allez mesurer. Oui, ça, la science ne le dit pas. Je dis ça parce que c'est tellement important. Ça, c'est le rôle de la critique. Hein. Le rôle de la critique, c'est de dire grâce à quelle démarche est obtenu tel résultat. Il y a une critique des sciences, il y a une critique de la philosophie. Mais donc, ça, c'est très important à saisir. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de primat de la critique en philosophie. Hein. Je commence par ceci. Il y a quelque chose de fondamental. La critique est toujours seconde. Si je veux mettre la critique avant le réel, je crois que tôt ou tard, j'aboutis au scepticisme. Je disais parce que j'aboutis à un primat de la négation. Le réel, c'est ce que n'est pas ma pensée. Donc le jugement d'existence n'est pas positif, c'est négatif. Alors ensuite, contemplation artistique, il y a une autre question là-dessus, alors, que j'évoque tout de suite. Là, il y a trois questions qui touchent à ça. L'art est dans l'ordre du faire, mais avant le faire. On dit souvent que l'artiste voit des choses que les autres ne voient pas. Oui, mais il voit des choses que les autres ne voient pas parce qu'il a beaucoup travaillé. Alors oui, je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'habitus de la sensation. Il y a un habitus de l'intelligence artistique qui habite de plus en plus ma connaissance sensible. Vous savez ce que dit Ingres, hein, quand il dit « Le peintre ne sait voir que quand il a beaucoup dessiné. » Mais c'est faux. Et pourtant, c'est vrai. C'est faux pour le philosophe, parce que ma vision est la même. Mais un peintre qui voit cette table et moi qui la vois, c'est la même table. Hein. Ah oui, il y a peut-être tel ou tel aspect dans notre œil qui fait que c'est un peu différent. Bon, très bien. Par contre, le peintre voit très différemment cette table, si tant est qu'elle l'inspire. Ça, c'est autre chose. Je prends un exemple bête. Voyez. Il le voit comment ? Avec l'œil de quelqu'un qui dessine et qui va en faire quelque chose. Et donc, qu'est-ce qui transforme ma vision ? Ce n'est pas la sensation comme telle, c'est la manière dont je regarde cette sensation, dont je m'en sers. Oui, je peux me servir de mes sensations uniquement de manière pratique. Je sais qu'il y a une table ici, je fais attention pour ne pas la fracasser dessus quand j'arrive. C'est utilitaire. Je veux dire, j'aime cette table parce que c'était celle de mon grand-père, il a travaillé dessus pendant des années, alors j'ai une affection pour cette table. Regard affectif. C'est tout à fait subjectif, parce que pour l'autre, oui, il n'y a pas grand-chose ta table. Ah, mais pour quelqu'un qui... ça représente quelque chose symboliquement. Puis l'aspect artistique. Tiens, cette table évoque pour moi telle ou telle chose. Et, vous voyez, il y a une certaine... Bon, ça, c'est l'aspect de l'aspect artistique. Donc, vous voyez, l'intelligence va se servir des sensations de manière différente selon les diverses connaissances. C'est ça qui fait qu'il y a une certaine subjectivité dans la sensation. C'est pas la sensation comme telle. C'est l'exercice de cette sensation qui est lié à l'intelligence dans telle perspective, ou à l'affectivité dans telle perspective. Vous savez, quelqu'un qui a une affectivité, par exemple, un moment très triste, tous les gens qui le voient, ils ont mauvaise mine. « Tiens, mais tu sais que t'es pas malade ?»« Non, ça va très bien, pourquoi ?»« Enfin, t'as mauvaise mine. Ah, »« oui. Mais peut-être que tu projettes sur moi ta propre attitude. »« Peut-être c'est vrai, mais peut-être c'est pas vrai. » Oui, le regard d'une mère sur son enfant, il n'est pas strictement objectif. Je vois que tu mens. Elle voit rien du tout, hein, le mensonge, ça se voit pas. Si, je vois que tu mens. Oui. Allez prouver ça positivement, de manière scientifique. C'est le problème de l'intuition. Vous voyez, autant de choses, vous voyez, pour vous montrer que c'est très complexe, hein, ces rapports entre sensation et intelligence. Mais, alors... Quand vous dites, hein, on dit souvent que l'artiste voit des choses que les autres ne voient pas, parce que sa sensation, par exemple, pour le peintre, est habitée par une intelligence d'artiste, qui voit tout en fonction de son art. Un peintre vous dira qu'à force de travailler, il finit par avoir ce qui peut appeler un défaut, mais ce qui n'est pas forcément un défaut, hein, qu'il finit tout par tout regarder en se demandant ce qu'il va en faire. C'est l'œil de celui qui fait quelque chose. Et tout d'un coup, devant telle chose, vous vous dites banalement, oui, ces arbres, ils sont verts. Et le peintre, comment il regarde ça ? Oui, c'est très intéressant, oui. C'est pas que sa sensation est différente de la vôtre, c'est qu'elle est habitée par une intériorité qui est différente de la vôtre. Parce que lui, il est tout entier polarisé par son art, par exemple. Hein ? Alors, en ce sens, l'œuvre n'est-elle pas le résultat de la contemplation ? Oui, il y a une certaine contemplation artistique qui enveloppe l'inspiration. Alors, justement, il y a quelque chose, deux autres questions qui sont posées là-dessus qui me semblent importantes. Alors, j'essaie d'y répondre et puis je prendrai après les autres. Puis, si vous en avez, je vous interrogerai aussi. Quand tu dis que l'art éveille au sens de la finalité, tu lui accordes une dimension éducative. Oui, je crois. N'est-ce pas moraliser l'art? Alors non. Oui. Ne dites pas que toute éducation est forcément morale. Il y a une éducation de l'homme par l'art qui n'est pas une éducation morale, hein, qui est éveillée. Par exemple, quand je disais ce matin, hein, l'art, tel art visuel, pictural, éveille au sens de la contemplation d'un regard gratuit, c'est pas du tout moral, ça. C'est m'apprendre à voir quelque chose. Donc oui, c'est évident. Hein. Dans tout art, il y a une dimension éducative, parce que l'œuvre d'art s'adresse à l'homme, mais c'est pas éducatif au sens moral du terme. Alors là, vous voyez, je crois que ce serait très intéressant à creuser. Hein. L'éducation, elle implique certes une dimension morale. Alors, c'est l'acquisition des vertus. Oui, on l'a vu ce matin. Hein. Comment ordonner les passions en vue d'une fin humaine? Oui. Par exemple, vous voyez, une mère apprend à son enfant petit à petit à manger à des heures régulières. Si, dès que j'ai faim, je mange n'importe quoi, je ne m'éduque pas. Je cède à n'importe quelle passion du concupiscible. Et la vertu de tempérance s'acquiert. Ah, quelquefois avec un labeur. Et mais je vous affirme, c'est très très fondamental, ça. Il y a des pays où il y a des, peut-être des familles, quelquefois, où on n'a pas du tout éduqué ça. Alors, dès l'âge de 5 ans jusqu'à 25 ans, hein, 20 ans, on mange à toute heure du jour et de la nuit, quand on veut, dans le frigo, chacun se fait ses repas. Mais je vous affirme que, moi je connais des jeunes qui ont été éduqués comme ça, ils vous disent combien c'est difficile après. Ça a des conséquences immenses sur toute la vie, la manière de vivre. Parce que si j'ai pas cette discipline toute simple du côté d'une passion pour un bien sensible, et que je mange dès que j'ai envie de quelque chose, mais j'ai aucune maîtrise de moi-même pour quoi que ce soit. Donc il n'y aura aucune capacité de devenir courageux, de faire un effort, etc. Par exemple, vous voyez. Oui, ça c'était quelqu'un que je connais bien, qui était vraiment éduqué comme ça, qui me disait combien c'était dur hein, pour redresser la chose après. Quand, vous voyez, quand on a pris une habitude comme ça, c'est ce qu'on appelle un vice. Hein. Un vice, c'est le contraire de la vertu, c'est une habitude invétérée, hein, qui fait qu'on a un pli. Mais c'est pas humain. Vous voyez. Ce n'est pas humain pour l'homme de suivre n'importe quelle passion. Bon, ça c'est l'éducation morale, vous voyez, je ne vais pas détailler, mais c'est intéressant de creuser ça. Et l'éducation implique l'aspect des vertus. Donc, un regard sur la fin humaine. Vous voyez, on l'a vu ce matin, pour que la vertu soit vraiment acquise, il faut qu'on ait découvert personnellement sa fin. Il faut la prudence. C'est pour ça qu'aux yeux d'Aristote, l'enfant, tant qu'il n'a pas découvert par lui-même sa fin humaine, n'a pas vraiment de vertu. Il a des dispositions, il a des bonnes habitudes, quelquefois, mais ce n'est pas encore vraiment des vertus. Ça ne devient vertu qu'en quand il a lui-même la prudence pour se gouverner lui-même, en choisissant l'orientation de sa vie. On le sait très bien. C'est pour ça qu'on est éduqué par ses parents jusqu'à un certain âge, mais après, on s'éduque soi-même. Hein. Il y a une auto-éducation. Et à 25 ans, on n'est plus éduquable par sa mère. Heureusement pour la mère. Bon. Ça, c'est l'aspect moral. Mais il y a une éducation qui est par l'art. Oui, au fond, ce serait intéressant à creuser, parce que l'éducation, c'est le problème du devenir. Hein. C'est le problème de la croissance. Comment je deviens progressivement une personne humaine? Bien, si on voit que ce qui est fondamental dans l'homme, c'est ce rapport de l'âme spirituelle et du corps, il y a toute une croissance humaine qui se fait à la manière dont l'âme spirituelle assume de plus en plus le conditionnement sensible. Vous voyez, au fond, c'est pour ça que pour Platon, il n'y a pas vraiment d'éducation. Pourtant, il parle beaucoup d'éducation, mais il n'y a pas vraiment d'éducation, en fait. Parce que l'éducation, c'est d'unifier la personne dans toutes ses potentialités vers sa fin. Or, l'art va jouer un rôle extraordinaire dans l'éducation. Pourquoi? Parce que l'art montre d'une manière éminente le rapport entre le spirituel et le sensible. Et l'art a un rôle extrêmement important au point de vue éducatif. Pour nous apprendre à ce que notre sensibilité, tant du côté de la connaissance que de l'affectivité, soit habitée par quelque chose qui soit lumineux, qui relève notre intelligence. Et ça, vous voyez, tous les artistes vous le diront. Hein, devenir intelligent dans sa vision. Hein, vous voyez, l'art a une dimension éducative qui n'est pas d'ordre moral, qui est d'ordre que ma sensibilité devienne spirituelle, s'affine. C'est pour ça qu'on dit que le goût artistique, ça se forme. J'apprends à voir quelque chose. Ça s'apprend de voir un tableau. Et ça s'apprend de voir qu'il y a des choses qui sont belles, d'autres qui ne le sont pas. Et ceux qui ne voient pas, ben, il lui manque quelque chose du point de vue humain. Et la formation du goût artistique, la formation de la sensibilité artistique, c'est très très important. C'est extrêmement important du côté éducatif. Et je crois que c'est même très important pour le sens philosophique. Oui. Parce que celui qui n'a aucune sensibilité, qui n'est pas éduqué, hein, qui n'est pas affiné dans ce domaine, alors souvent on ne l'est pas, donc ça doit s'apprendre, hein. Mais il y a des choses qu'il ne percevra pas, même du côté intellectuel. Et Aristote a cette petite remarque, hein, qui fait bondir les gens, mais qui a quelque chose d'intéressant, hein. Et saint Thomas le reprend. Aristote dit que les hommes sont plus ou moins doués quant à leur intelligence selon la finesse de leur toucher. C'est très curieux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que la capacité de percevoir quelque chose, les nuances d'une chose, ça s'apprend. Mais ce n'est pas que je... Bien sûr, il peut y avoir des dispositions corporelles, mais c'est pas la question. C'est surtout le fait que je sois lucide dans ma connaissance sensible. Ce n'est pas tout à fait la même chose, ça et ça. Il y a des gens qui ne voient pas les différences. Il leur manque forcément une finesse pour percevoir certaines choses. Oui. L'affinement de la sensibilité, l'art, il joue beaucoup. Comme aussi les vertus morales. C'est pour ça qu'Aristote dit, quant aux vertus morales, que l'homme qui est vertueux est plus sensible que l'homme qui n'est pas vertueux, ce qui nous réconcilie avec la vertu. Parce que le mot vertu en français aujourd'hui, ça n'a pas bonne presse. On voit tout de suite, ça fait moralisant. Alors c'est la loi, c'est kantien, c'est stoïcien, il faut faire des efforts, on n'en a rien à faire. Au contraire, la vertu, c'est que ma sensibilité soit totalement au service de la vie de l'esprit. Alors elle s'affine. L'homme qui est vertueux est beaucoup plus sensible dans son affectivité que l'homme qui n'a aucune vertu parce qu'il est livré à n'importe quel instinct. Mais être livré à n'importe quelle passion et instinct... Les choses se spiritualisent, mais on se rend compte très vite que notre sensibilité s'affine. On devient beaucoup plus capable de percevoir, d'être sensible à certaines choses, d'être aussi d'être vulnérable par conséquent. Oui. Forcément, ce n'est pas facile, parce que la sensibilité nous rend très vulnérables. C'est ce qui faisait comprendre comment les stoïciens avaient très peur et voulaient supprimer toute sensibilité, toute passion. Oui, mais c'est très important de saisir ça. Je crois que c'est bien les deux grandes dimensions de l'éducation. Puis la troisième, qu'il faudrait mettre en lumière, c'est l'éveil de la recherche de la vérité. C'est très important aussi du point de vue éducatif. Je crois que c'est très important pour éduquer une personne humaine. Donc, s'il y a d'autres choses, il y a sûrement d'autres éléments, c'est évident. Je ne donne pas ici un schème, mais c'est en tout cas des axes qui me semblent évidents. Alors, autre question qui est un petit peu analogue à la contemplation artistique. Je crois que dans la physique, Aristote parle d'une physique théoria, donc d'une contemplation naturelle. Est-ce une contemplation du monde? Quelle qualité engendre-t-elle? Alors oui, je crois que c'est très intéressant, c'est le sens premier du mot théoria chez les Grecs. Je ne l'ai pas mentionné hier parce que je n'ai pas eu le temps. Alors je le rappelle rapidement. Oui, le mot théoria, je vous ai dit hier, le mot théoria, il a son origine d'abord dans la racine orao, qui veut dire je vois, voir. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est lié à l'aspect du regard. Ensuite, chez les présocratiques et chez Platon, le mot théoria a deux sens principaux. Il signifie justement considérer le monde, considérer l'ordre de l'univers. Alors, l'archétype de cette connaissance, pour les Grecs, c'est l'astronomie. Notamment, les pythagoriciens ont mis ça très en lumière. C'est ce qu'ils appellent le cosmos. C'est bien que pour les Grecs, il y a deux termes pour parler de l'univers. Il y a le terme pan, qui c'est le dieu Pan. Le terme pan, ça veut dire le tout. L'univers, c'est le tout. Et nous sommes une partie du tout. Mais l'univers, c'est aussi un tout ordonné, cosmos. Un cosmos signifie un ordre. La science astronomique, c'est considérer l'ordre de l'univers. Et c'est l'origine, et c'est lié à l'aspect des mathématiques. Ordonné, nombré. Dès que je cherche à connaître, dès que l'homme cherche à connaître, il ordonne. Donc, il y a une considération du monde qui saisit un ordre du monde. Aristote l'a développé dans la physique, certes, mais surtout dans le Decello, le traité du ciel, qui est un traité sur l'ordre de l'univers. Qu'est-ce qui est le plus parfait dans l'univers? Comment ordonner tout l'univers? Alors, pour lui, c'est les corps célestes, qui sont le sommet de l'univers. On ne peut plus dire ça aujourd'hui, bien sûr. Donc, sa cosmologie, elle a quelque chose qui est dépassé. Mais c'est intéressant. Dans l'univers physique, qui est un tout, Comment saisir un ordre? C'est très important parce que c'est à l'origine de beaucoup de sciences. Hein, Duhem dit ça très bien dans son Histoire des sciences. Et c'est pour ça que pour les grands savants, la science ne peut pas garder sa fécondité si elle n'est pas enveloppée par une recherche philosophique. Parce que la philosophie étant sagesse, situe la place de la recherche scientifique. Hein, c'est très important à noter, ça, je crois. Donc, vous voyez, c'est en ce sens-là qu'Aristote en parle ici. Hein. Il y a une certaine contemplation du monde, de l'ordre du monde. Bon, ça, c'est le sens premier. Puis, pour les Grecs, c'est aussi hein, contempler, théorène, c'est contempler, hein, c'est l'aspect religieux que j'avais évoqué hier rapidement, contempler la statue du Dieu. Hein, il y a une dimension de culte ici. Vous savez, on retrouve ça chez les Latins avec un autre mot, c'est bien le terme adorare, hein, adorare, adorer, hein, le terme latin, au sens premier, ça veut dire envoyer des baisers. Hein. Ad orare, os la bouche. Ad, parce que le culte chez les Latins, face à la statue de Dieu, ça consistait à envoyer un baiser à la statue de Dieu pour montrer qu'on le vénérait. Et on embrasse, hein, on manifeste, par là, l'affectivité, l'amour. Donc, adorare. Hein. C'est la même chose ici, vous voyez. Contempler, regarder la statue du Dieu. La statue tient la place du Dieu dans le temple. C'est comme contemplare, hein, contemplum. Les stoïciens diront que contempler, c'est considérer l'ordre de ce temple qu'est le monde, dans lequel réside la sagesse de Dieu. Pour ça que, vous voyez, dans l'architecture religieuse, le temple, c'est cosmique. Hein, c'est un résumé du monde avec la statue du Dieu au milieu, qui signifie la présence de Dieu dans le monde. La religion païenne, c'est ça. Hein. La statue est symbolique de la présence de Dieu. C'est pour ça que c'est pas important le culte extérieur. Vous comprenez qu'on ne vénère pas une idole comme un dieu. Ça a une dimension symbolique. La statue du dieu représente, rend présent, hein, représente le dieu. Donc au-delà de la statue, c'est à la présence du dieu, même si ce dieu est mythologique, mais que l'adoration et que la contemplation s'adressent. Donc vous voyez, ça c'est le sens originel. Hein. Voir le monde, voir la statue du Dieu. Alors, c'est Platon qui intériorise cela en disant contempler, c'est pas seulement considérer le monde, c'est considérer hein, le bien en soi, le monde véritable, le monde intelligible, dont ce monde sensible n'est qu'un reflet. Hein, je vous l'ai montré hier. Et au point de vue religieux, c'est pas seulement se contenter de rendre un culte à la statue, c'est au-delà de ça, justement, saisir le Dieu intérieur. Le Dieu dont la présence est intérieure à l'homme. Et ça, le père Festugière, hein, dans son étude sur Platon, souligne que c'est sûrement pour Platon la porte propre de Socrate. Socrate, Platon le dit, hein, Platon dit qu'il s'est converti à la philosophie en rencontrant Socrate. Et au fond, ce que Socrate a apporté à Platon, c'est une intériorité. Hein, Platon était de race royale et cherchait surtout le pouvoir politique. Et il raconte que c'est Socrate qui lui a fait quitter cette ambition pour devenir philosophe. Donc vous voyez, passer, hein, je vous ai montré hier, passer d'une description extérieure à une intériorité de la connaissance, passer d'un culte extérieur à un culte intérieur. C'est ce que Platon a d'intéressant. Ce que Merleau-Ponty reprend, du visible à l'invisible. Hein, du sensible au spirituel. Alors, tout dépend comment on le voit, évidemment. Pour Platon, pour passer du sensible au spirituel, il faut rejeter le sensible, ce qui n'est pas juste. Pour Aristote, on part de l'expérience sensible pour entrer dans la sagesse qui est spirituelle, mais ça ne s'oppose pas au sensible, puisque l'être premier est cause comme créateur de ce monde dont nous avons l'expérience. On y reviendra à propos de la contemplation tout à l'heure. Comment sagesse et prudence s'articulent-elles dans le concret de l'expérience, notamment dans le travail? Par exemple, face à un impératif, j'arrive pas à vous lire là. Face à un impératif, bon, il y a un mot que je ne lis pas, est-il mieux de défendre coûte que coûte la vérité? Ça doit être un impératif commercial, c'est ça? Qui a posé la question? Commercial. Face à un impératif commercial, est-il mieux de défendre coûte que coûte la vérité? Par exemple, je dis à cette personne dans telle entreprise la vérité, quitte à la perdre comme client. Ou je privilégie la vie de mon entreprise. Ou la prudence me conduit-elle à poser des... des choix qui ne servent pas prioritairement cette quête de vérité. Oui, ça dépend. C'est des questions que les gens posent très souvent. Il n'y a pas très longtemps, j'étais pris par quelqu'un, un chef d'entreprise, en stop. Puis il me dit, ah, tiens, je vais vous poser des questions, ça j'en profite. Je dis, bon, très bien. Il dit, voilà, concrètement, tous les jours, je dois faire des choix. Il dit, je suis chrétien, pratiquant, mais toujours, je dois faire des choix qui vont contre ma conscience. Si c'est pas moi qui obtiens ce contrat, c'est le voisin qui l'obtient. Alors, je veux l'obtenir par tous les moyens. C'est pas moral. Mais je sais que si je ne l'obtiens pas, demain, je ferme la boutique et j'ai 80 ouvriers au chômage. Qu'est-ce que je fais? Oui. Pas commode de répondre à cette question. C'est une question tout à fait d'ordre prudentiel. Oui, c'est vraiment délicat. Hein. Alors, c'est ça, vous voyez. C'est le problème entre la vérité hein, et puis... Vous voyez, est-ce qu'il y a des lieux où il y a des compromissions possibles hein, ou est-ce que c'est une compromission? Moi, je dirais qu'il y a un ordre. Je crois qu'il y a des lieux où il n'y a pas de compromission possible. C'est vrai qu'il y a des choix d'aujourd'hui, on est devant certains choix aujourd'hui. Par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois que des médecins me posent des questions très délicates, qui touchent des questions d'éthique médicale. Mais il y a des choix à poser, il y en a certains qu'il n'y a pas de compromission possible. Parce que si vous acceptez certaines choses, vous, au sens propre, vous trahissez votre conscience. Non seulement peut-être de chrétien, mais même d'homme ou de médecin. Oui, donc c'est très délicat. Il y a des choix aujourd'hui qui, quelquefois, vous mettent devant des difficultés très grandes pour votre vie. Alors moi, je connais quelqu'un qui est dans ce cas-là, qui, pour refusant certaines demandes de la part de certains patients, eh ben, a dû subir le fait qu'il n'y a plus de carrière médicale et qu'elle s'est brisée. Oui, quel choix vous faites? Pour ça, c'est le problème de la finalité. Est-ce que c'est ma carrière qui passe avant ou est-ce que c'est le bien de l'homme, quitte à ce que ma carrière en pâtisse? Oui, ce sont des choix prudentiels, constants. Pour ça, je vous ai dit ce matin, je ne peux pas poser un choix sans regarder de manière claire quelle est la fin. Quelle est la fin qui commande ma vie? Non, si votre fin prioritaire, c'est faire carrière coûte que coûte, alors on est prêt à n'importe quoi pour obtenir ce qu'il nous est demandé, ce qu'il nous a proposé. Et dans le domaine, dans le milieu artistique, c'est pareil. Dans beaucoup de cas. Moi, je connais plusieurs jeunes qui ont... quitter les beaux-arts ou qui ont quitté un conservatoire pour avoir refusé certaines choses qui leur étaient demandées pour obtenir le premier prix, notamment dans le domaine moral. Oui, c'est des choix. Je n'aurai qu'un troisième prix si j'accepte pas de faire ce que me demande le type. Oui. C'est des choix très très quotidiens aujourd'hui, dans certains milieux. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'un choix? Un choix implique un ordre. Et pour saisir un ordre, il faut saisir un premier. Qu'est-ce que je poursuis? La carrière à tout prix ou la vérité de ma vie humaine? Oui, c'est très concret. Hein. Et je crois que le monde d'aujourd'hui, c'est vrai, il nous oblige à ces choix. C'est analogue, pour un chrétien, c'est analogue à ce que vivaient les premiers chrétiens. Hein. Tu choisis de proclamer le Christ ou tu choisis le cirque? C'est le cirque, hein, les lions. Ou bien tu choisis de rendre un culte à l'empereur et tu as la vie sauve. Oui, c'est un choix. C'est pour ça que le choix implique un témoignage. Martyr, c'est témoignage. Donc là, il y a certaines questions vous voyez, qui sont délicates de répondre de manière universelle. Ça dépend des cas, et ça dépend aussi de la fin profonde que la personne poursuit. Je peux difficilement répondre. Mais c'est vrai que je crois que pour un chrétien, dans certains cas, il va aujourd'hui de l'ordre de la sainteté. Il y a des compromissions, où il y a des choix qui nous mettent immédiatement face à quelque chose d'ultime dans notre vie. C'est vrai. Donc vous voyez, c'est là que ça touche le problème de la vérité. Socrate, hein, vous savez bien que pour les stoïciens, Socrate était le martyr de la philosophie. Parce qu'il avait préféré la condamnation à mort que de renier sa mission qui était de proclamer la vérité d'un culte intérieur. Donc pour ça que beaucoup ont fait le parallélisme entre le Christ et Socrate. Hein, comme martyr, témoin d'une vérité qui dépasse les choses habituelles. Mais c'est le problème du choix. Hein. Le choix est face à une fin. Et la fin, elle est principe, donc elle est première. Et celui qui n'a pas de finalité n'a pas d'ordre. Donc il n'y a pas de choix, il n'y a pas de vrai choix. Et il suit le courant. Il suit, il cherche. Beaucoup d'hommes politiques sont comme ça. Hein. On prend la température. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire pour qu'on ait des votes en plus? Et comme ça, on est sûr de passer. Je vous affirme, on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps, il y a un mois. Des députés d'un pays qui viennent dire, on s'est fait rouler il y a quelques années pour une loi, on a suivi notre conscience, telle opinion, telle conviction, et on a perdu les élections à cause de ça. Aujourd'hui, il y a un problème analogue qui se repose. Si on continue à suivre notre conscience, on est sûr qu'on perd encore, on n'a plus le pouvoir. Donc nous, on vous dit d'avance qu'on votera, même si on est chrétien, on votera pour telle chose, parce que c'est la seule manière de gagner les élections, c'est dans l'air du temps. Oui. Le problème, il est là. Non. C'est pour ça, vous voyez. C'est pour ça, vous voyez, que la prudence politique n'est pas la même que la prudence personnelle. Pour un homme politique qui a des convictions, il est quelquefois dans un lieu où il ne peut pas faire autre chose que essayer de modifier tel petit détail qui va améliorer un peu la loi dans le sens du bien. Et quelquefois, c'est la seule chose qu'il peut faire. C'est pour ça qu'en morale, il n'y a pas de moindre mal. En politique, il y a un moindre mal. Et ça, c'est très important comme distinction. Oui. En morale, il n'y a pas de moindre mal. Un mal est toujours un mal. En morale. Mais en politique, il y a un moindre mal. Parce qu'entre les deux candidats, ils sont tous mauvais. Mais il y en a un qui est un peu moins mauvais que les autres, parce qu'il dit ça au moins. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'on est très loin de la vision grecque. Hein, pour qui les Grecs, pour qui la loi avait un rôle éducatif. C'est pour ça que pour les Grecs, les premiers sages, ce sont des hommes politiques, hein, les sept sages. Notamment Solon à Athènes, qui est considéré comme un sage, parce qu'il a mis les lois fondamentales de la cité, qui sont des lois qui vont dans le sens du bien et de l'éducation de l'homme. Aujourd'hui, la loi ne fait que valider un état de fait, hein, qui est l'opinion du plus grand nombre la plupart du temps. Alors vous voyez, c'est comment à l'intérieur de ça, il peut y avoir une espèce de l'intérieur, essayer de changer pour que ça bouge un petit peu, mais c'est très difficile, hein, parce qu'on est face à des choses qui se tiennent dans tous les sens, on a très peu de pouvoir. Bon, mais c'est vrai que ça pose ces questions de manière très concrète. Alors, le langage poétique reste-t-il toujours ou participe-t-il toujours de l'ordre du sensible? Est-il secondaire ou peut-il participer à un élan, une vérité spirituelle? Alors, oui, il faudrait que je sois poète pour répondre. Mais quand même, le philosophe peut en dire un mot. C'est sûr que le langage poétique, bien sûr, il est de l'ordre du sensible. Il est de l'ordre du sensible. Hein, parce que c'est le langage poétique, le langage, c'est ce qui s'entend, c'est ce qui se dit. Et c'est pour ça que, juste au point de vue historique, c'est intéressant. Hein, ce n'est guère qu'à partir de Mallarmé, du moins en poésie française, hein, je ne connais pas assez le reste, mais ce n'est guère qu'à partir de Mallarmé et d'Apollinaire que la poésie, que le poète, ou même de, comment il s'appelle, Nerval, hein, que la poésie est vue comme, que le poète est vu comme quelqu'un de visionnaire. Jusqu'au XIXe siècle, la poésie est avant tout auditive. Et moi, je crois que la poésie est un art de l'ouïe et pas de la vision. Oui, c'est Apollinaire qui a fait, qui a tout, surtout concentré les choses sur l'aspect visionnaire. Oui, en allant jusqu'à la calligraphie. Hein, c'est intéressant, mais c'est plus la poésie, c'est la calligraphie. C'est pas la même chose. C'est pas le même art. Ah oui, je crois que le langage il est d'abord du côté de la communication. L'écrit, c'est encore autre chose. Hein. Donc c'est pour ça, le langage poétique reste-t-il toujours ou participe-t-il toujours de l'ordre sensible? C'est bien sûr. Est-il secondaire ou peut-il participer à un élan, une vérité spirituelle? Oui, je crois. Laquelle? Est-il un moyen? A-t-il un sens, une finalité? Oui, il cherche à communiquer quelque chose. Je ne vais pas faire un cours sur la poésie, ce serait trop long. Il faudrait que je fasse tout un cours de philosophie de l'art. Alors je veux bien, j'ai déjà fait, mais ça va nous entraîner trop loin. Mais posez-vous la question. Ce n'est pas, vous voyez, le langage peut être un langage philosophique. Je me sers du langage pour communiquer, je vous fais un cours, oui. Je ne vous fais pas un cours dans un langage poétique. Je n'ai aucun souci de ça quand je vous fais le cours. Non. Je cherche à voir comment vous communiquez ma pensée de manière aussi précise que possible. Je pourrais faire un cours de mathématiques, enfin, je n'en serais pas capable. Mais le cours de mathématiques, le langage mathématique, en fait, un langage d'équation, pour le non-initié, c'est tout à fait imbuvable. Pour celui qui est mathématicien, quelquefois, il se réjouit d'un cours mathématique, c'est tellement extraordinaire. C'est tellement beau. Alors le poète, qu'est-ce qu'il cherche à communiquer par son langage poétique? Je crois un langage personnel. C'est l'aspect de la source, donc je crois que c'est lié à l'aspect de la personne. Pour moi, c'est lié beaucoup à l'aspect de la présence et de l'amour. Mais aussi la lumière. Et le langage poétique, hein, C'est un langage qui cherche à exprimer un secret. C'est pour ça que, même dans la révélation, Dieu use d'un langage poétique, les psaumes, le cantique des cantiques. Et c'est important, oui. C'est sûr qu'il faut avoir une philosophie de la poésie pour comprendre quelque chose, certaines dimensions de la parole de Dieu au point de vue théologique, ça c'est sûr. Oui. Le langage de l'Apocalypse, le langage du cantique des cantiques, le langage des psaumes, c'est pas un langage mathématique ni philosophique. C'est un langage poétique dont Dieu use pour communiquer à travers cela un secret personnel qui nous parle de son amour et de sa vérité. Donc, vous voyez, qu'est-ce que ce langage poétique, symbolique, permet d'exprimer ? Ce n'est pas une vérité spéculative, hein. Ce n'est pas une vérité mathématique, ce n'est pas une vérité philosophique, c'est une vérité d'un autre ordre. Vous voyez, c'est tout le problème de l'art. Hein. Comment l'art exprime dans un langage symbolique, et chaque art a son langage propre. La peinture a son langage, la musique a son langage, la poésie a son langage, la sculpture a son langage, l'architecture a son langage. Chaque art exprime dans son langage propre une vérité qui lui est accessible pour lui seul, pour cet art, et qui est communicable parce que l'homme qui le reçoit, l'homme qui voit un tableau, l'homme qui entend un poème, l'homme qui voit une statue, il perçoit quelque chose de ce que l'artiste a voulu lui dire à travers ça. Et c'est sûr, Kandinsky dit ça très très bien. Quand il dit, l'art s'exprime dans son langage propre, ce n'est pas une théorie qu'on transcrit dans un langage artistique. C'est une vérité qui ne s'exprime que dans ce langage. Et c'est ça le problème de l'inspiration artistique. C'est que l'artiste est inspiré parce qu'il doit dire, il doit faire quelque chose qui ne peut être dit et exprimé que comme ça. Mais il y a donc une vérité propre à chaque art. Et j'avais presque dire aussi à chaque artiste. Alors, je ne vais pas développer plus, parce que ce serait trop long, mais c'est vrai que c'est important parce que ça nous dit quelque chose aussi comme disposition à ne pas rester uniquement au niveau rationnel. Alors, on y reviendra tout à l'heure, ce que je voudrais dans la dernière heure de cette journée. On regardera, je vous l'ai dit tout ce matin, le rapport entre science et sagesse, et puis je verrai avec vous comment Aristote parle de la contemplation.